La vraie charme des gens, c'est le côté où ils perdent un peu les pédales.
Monsieur Laugier a écrit « Le risque, c'est ça ».
Pour faire parler les gens sur leur goût, il faut leur faire parler de ce qui les dégoûte.
Parce qu'un serpent est gentil, et une pomme, c'est bon, ça contient la pectine.
Et normalement, je devrais juste aller lui casser la figure.
Et toi, mon gars, qu'est-ce que t'en dis ?
Moi, vous savez, j'ai aucune opinion.
Arrête tes conneries, t'en as forcément une ! Dis-moi, est-ce que tu crois qu'on peut affirmer que Dieu a intercepté ?
Bonjour et bienvenue sur Et toi, t'en penses quoi ? Pour notre deuxième épisode. Et toi, t'en penses quoi ? C'est le podcast qui prend les meilleurs sujets du bac de philo pour les traiter de la manière la plus rigoureuse et la plus subtile qui soit. On y discute références pop en essayant d'articuler notre pensée en 17 parties et demie afin de vous proposer le corrigé le plus exhaustif possible des dissertations proposées par l'éducation nationale à nos élèves de terminale. Je m'appelle Henri, je suis prof de français, je suis philosophe raté, même pas prof de philo, c'est dire. Et j'ai avec moi ce soir Lucille pour m'accompagner. Lucille, comment ça va ?
Ça va très bien.
Est-ce que t'es contente d'être là ?
Je suis vraiment très contente d'être là. Je suis un peu déçue parce qu'on a réenregistré le début, j'avais vu une putain de vanne que du coup je peux pas trop refaire, j'ai pas osé la refaire alors qu'en vrai j'aurais pu.
Lucille, est-ce qu'on peut rappeler aux auditeurs ce que tu fais toi ?
Bah moi je fais comme toi, je suis prof de français.
Ouais, t'es prof de français, alors quand même t'es prof de français toi en REP plus hein. Bah c'est l'équivalent d'une zone de guerre. Bah quand même c'est un peu différent. Moi je suis juste prof de français dans un collège quoi.
Ouais, mais alors dans cette guerre laisse-moi te dire que j'ai aucun rôle quoi. Enfin je suis au mirador et je mate tu vois.
C'est déjà beaucoup. Rappelons-le Lucille, c'est toi qui m'as fait devenir prof de français.
C'est vrai.
Tu es donc un peu mon mentor intellectuel.
Menteur.
Oh, c'est comment, c'est du jeu de mots. Ouais.
Attention, ça va envoyer du très très lourd.
Lucille, la semaine dernière, nous avons traité le sujet « Peut-on échapper au temps ?» Et nous avions fini par un gros désaccord, notamment au sujet de l'interprétation du film Terminator. Je ne sais pas si tu te souviens.
Je m'en souviens.
Et nous avons proposé à nos 3-4 auditeurs de voter pour le sujet du jour.
Dans oui. 85 abonnés, on aura 100 abonnés sur Instagram. Donc on est
excellent.
Bon, on est très
excellent.
Très bon.
On a eu quelques votes malgré tout et ça,
oui.
Ça fait plaisir.
Incroyable.
Des amis, des connaissances, hein. des voisins quoi.
Enfin,
vraiment ma mère. Non pas ma mère.
Mais
en ce moment vraiment c'est un sujet un peu sensible. Si on pouvait passer là-dessus.
Donc, ton père.
Donc, pour les auditeurs qui nous écoutent, mon père est mort il y a 2 mois, littéralement. Donc, c'est vraiment, je suis encore plus sensible. Donc, on est. Allez, passons. Donc, on a eu quelques votes. On est en 2018, série ES.
Oui.
Et il y avait le choix entre deux sujets. Le premier sujet, c'était toute vérité est-elle définitive ? Et le deuxième sujet, c'était peut-on être insensible à l'art ? Et on a eu une écrasante majorité de votants, parce que sur les quelques votes qu'on a eu, c'est-à-dire une petite dizaine seulement, mais c'est pas grave, on commence doucement, eh bien tous ont voté pour le même sujet. Et ce premier sujet, celui qui a été retenu, c'est le premier, toute vérité est-elle définitive ? Et ça c'est à ton grand désarroi, puisque tu me disais la semaine dernière que c'était vraiment un sujet de merde dont t'avais pas envie de parler.
Alors ça me fait vraiment grave chier. Alors je pensais qu'on allait d'abord parler de pourquoi on n'avait pas pris, enfin de ce qu'on aurait dit vite fait de celui qu'on n'a pas pris, mais c'est encore mieux si on le fait pas, parce que l'autre me faisait aussi chier, moins chier que celui qu'on va traiter.
Ouais.
Donc...
Alors moi, peut-on être insensible à l'art ? Juste un mot, je regardais le sujet, bon je l'ai pas du coup, je l'ai pas pensé, hein, avec mes facultés terribles.
Tu vas pas parler des nus du coup.
Non, non,
c'est dommage.
Mais c'était l'occasion. peut-on être insensible à l'art ? La formulation m'a paru étrange.
Ouais, pareil.
C'est la négation du sensible, enfin le insensible à l'art. Pourquoi ne pas dire peut-on être sensible à l'art déjà ?
Et tu trouvais que c'était jugeant un peu aussi, non ?
Oui,
moi je trouvais que c'était ouf jugeant, tu sais, genre.
Ah, mais complètement.
Ça comment m'a... accepter le fait qu'on soit insensible à l'art, tu vois ? Enfin, donc voilà, donc sujet de droite, vas-y, ça dégage.
Ouais, sujet de droite, oui, ok, d'accord, j'accepte ça. J'accepte ça. Alors moi, le premier, il me va bien. Et tu sais pourquoi,
Lucille, je te vois arriver, mais avec tes très gros sabots.
Bon alors, il faut que je le dise, il faut que je parle un peu de mon passé. J'ai fait des études de philo,
oui.
Et j'ai essayé de passer le CAPES de philo, oui. Que j'ai lamentablement raté.
Oui.
Mais il y avait un truc que j'aimais bien. Oui. C'était ce qu'on appelle l'épistémologie.
Bah oui.
Pour quelque chose qu'on n'a pas répété, je trouve que...
Oui, t'as vu. Mais c'est parce que je savais, en fait, mais que t'allais arriver avec ça.
Bien
ça me fait
sûr.
Grave chier,
c'était
putain.
Ma passion. J'avais une passion.
Comment on peut être passionné par un truc nul, pareil.
Alors, on va quand même dire ce que c'est l'épistémologie pour ceux qui nous écoutent, parce que bah, c'est quand même un mot qui n'est pas utilisé tous
mais
les jours.
C'est un... ouais.
L'épistémologie, c'est, pour le dire vite, la philosophie de la science, la philosophie des sciences, ou le discours sur la science, bref, c'est tout ce qui concerne, du coup, bah, les matières scientifiques et ce que la philosophie essaie d'en dire. Donc avec un sujet comme ça, avec toute vérité et telle définitive,
bah, mais...
où littéralement je pense que c'est le seul sujet qui est traité en épistémologie, forcément pour moi ça me va bien.
Bien sûr.
C'est
alors,
un sujet dans lequel je me retrouve.
Moi ça me fait grave chier.
Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu le détestes ce sujet?
Alors... pour la première raison, c'est celle que t'as invoquée, c'est que je me suis dit, putain, il va me faire grave chier avec l'épistémologie. Genre le truc qui moi,
mais vraiment, je vais un peu en parler.
Bah oui, non, mais voilà. Donc, première raison. Et deuxième raison, c'est que en vrai, la vérité, c'est un sujet, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je me disais, je suis vraiment, tu sais, le mec dans Matrix avec son steak. Oui. Tu sais, le mec qui dit,
temps,
moi je reste...
plus le garder pour le développement construit, ça, mais bon, mettons.
Bah non, mais...
Il s'appelle Cypher, si tu veux tout savoir.
Bah, je suis bien content de
Cypher,
le savoir.
C'est le show
bien,
dans Matrix 1. Hein,
bien un nom de merde.
Il a une moustache aussi.
Super.
Il est pas seulement le show,
bah,
il a
si
aussi
vous le retrouvez dans la matrice, du coup, pour lui parler.
Je sais que j'ai essayé plusieurs fois de trouver sur YouTube, je tape Cypher Steak, mais ça ne marche pas. cet extrait n'existe pas, les gens, a priori, ne kiffent
tu
pas
Tu crois qu'on
extrait.
L'a rêvé.
explique pour les auditeurs l'histoire de Cypher.
Bah, alors, je suis pas sûr de savoir le faire, mais en gros, du coup, dans Matrix, t'as le choix entre rester dans la matrice et donc rester dans une espèce de monde virtuel qui est pas la réalité, ou prendre l'autre pilule et découvrir, en gros, on va dire, le dessous des cartes, quoi. Et lui, en fait, il dit, moi, je m'en bats les couilles de connaître la vérité, je m'en bats les couilles de savoir de quoi le monde est vraiment fait, j'aime bien le goût du steak, et du coup, le steak, tu peux le bouffer que dans la matrice, et ça me va
parce
très
que
bien.
Oui, parce que le monde réel, c'est un monde pauvre, et désolé, c'est un monde horrible, en fait. Hein. Le monde réel, c'est un monde horrible.
Bah alors, Néo, il est pas vachement mieux dans le monde qui est...
Non, le monde réel,
ah oui, pardon, excuse-moi.
Dans le monde réel, il est horrible, avec toutes les babouses là, qui chantent, là, qui dansent, qui font le tam-tam dans la grotte, là, c'est horrible. C'est vraiment ce qu'il y a de pire.
Donc, ouais. T'imagines, tu prends la pilule pour accéder au truc, et en fait, t'arrives à un concert de Tikkun Jaffa Coli dans une usine. L'enfer,
c'est horrible. C'est horrible, c'est vrai.
Donc, voilà.
Donc, toi, t'es Team Cypher.
Bah, en fait, la vérité. C'est pas un sujet qui m'intéresse. Enfin,
ouais, mais
alors
là, ça serait plutôt sur. Si, ça, enfin, en tout cas, ça serait plutôt là sur. Faut-il chercher la vérité ? Ce serait sur
oui,
ce
non,
genre
mais
de
c'est
sujet.
Juste que c'est.
Ça
à la rigueur, ça m'intéresserait plus. Mais là, tu vois, le toute vérité est-elle définitive ? Enfin, je m'en. En fait, fous. Alors, j'y ai réfléchi un peu, enfin, vite fait. Mais du coup, c'est pas un sujet qui me. Comme ça, brûle pour point, qui me passionne. Quoi. Enfin, bon.
Ok. Bon, on va quand même essayer de le traiter.
On va essayer de le traiter.
Ouais. Allez, on y va. C'est parti.
Attends, t'as pas dit ce qu'on avait à boire ?
Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on est accompagné par du blanc de blanc.
C'est vraiment un podcast de droite.
Non, en fait, en vrai, je sais pas ce que c'est. Non, c'est marqué Buget sur l'étiquette. Et on a découvert que c'était un blanc qui pétillait. Et je trouve que dire blanc de blanc, ça fait vraiment très, très connaisseur. Quoi. Mais ça se tombe. Peut-être que nos auditeurs pourront nous dire ce que c'est que du blanc de blanc réellement. Ouais. J'en ai aucune idée.
Okay.
Donc, allez, c'est parti pour le sujet. Alors, toute vérité est-elle définitive ? Est-ce que tu veux commencer, Lucille, ou est-ce que j'attaque ?
Bah, moi, tu sais, la dernière fois, t'as dit « ça fait chier tout le monde, ça me fait chier ». Moi, j'aime bien quand même l'analyse des termes. Mmh. Alors, bon, ça... Moi...
Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Sur ce sujet-là, je suis d'accord. On peut y aller doucement, on peut y aller tranquillement.
Ok. Alors déjà, je sais pas si t'as cherché, mais je suis allée chercher l'étymologie, moi, de vérité, parce que, tu sais, en plus, l'étymologie, c'est un truc que j'aime bien.
Je déteste l'étymologie. Alors, explique ce que c'est que l'étymologie pour les auditeurs, quand même.
Bah, l'étymologie, c'est connaître l'origine, c'est l'origine d'un mot. Voilà, c'est d'où le mot vient, dans quelle langue, et souvent, tu t'aperçois que le mot, dans la langue d'origine, il avait pas exactement le même sens que le sens que tu lui
donnes. Je déteste
l'étymologie. Mais c'est trop bien, l'étymologie.
En fait, je vois pas ce qu'on dit avec l'étymologie.
Comment ça, je vois pas ce qu'on dit ?
Mettons que tu vas me dire la vérité. Bon, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'ai pas été mettons que tu me dises vérité au départ, ça veut dire souffrance.
Ouais.
Ça vient de tripalium, l'instrument de torture. Je veux dire, ok, super, mais c'est plus le cas aujourd'hui, donc c'est bon, sujet des clos. Donc, c'est bon. Je ne comprends pas ce que tu veux foutre avec de l'étymologie. Moi, ça a voulu dire ça à une époque, très bien, et ben ça veut plus dire ça. Et là, je trouve que c'est. En fait, on essaye de raccrocher une définition qui est actuelle, le mot a changé à quelque grâce aux traces du passé, alors que parfois c'est juste
non, mais
what the fuck.
Je suis d'accord, mais t'essayes pas de dire c'est donc ça que ça veut dire, mais de connaître l'origine du mot et de savoir ce qu'il a voulu dire au départ. Souvent, en plus, l'étymologie des mots, elle est ancienne, voire très ancienne. En l'occurrence, vérité, c'est un mot, c'est de l'indo-européen, donc c'est vraiment très ancien.
Oui.
Et donc, du coup, ça témoigne quand même de la vision que les gens ils avaient à l'époque de ce mot-là.
Oui,
et de, tu vois,
qu'est-ce qu'on fait
même...
aujourd'hui ? C'est comme si tu me disais, moi, quand j'étais jeune... Je sais pas, je me suis fait frapper par mon père, mettons, et bah très bien, mais c'est très intéressant de le savoir. Mais ce que je veux dire, c'est que la même personne qui s'est fait frapper par son père quand elle était jeune, elle a pu devenir A ou B, elle a pu devenir noire ou blanche, elle
oui,
a pu
mais
devenir tout et son opposé. Donc tu me dis, ah bah,
tu
au
viens
départ c'était ça.
Part.
Oui, mais que tu me dises au départ ça voulait dire ça, et du coup maintenant on en dit l'inverse, ou maintenant c'est resté dans l'affiliation, ça ne me dit rien sur ce qu'il est aujourd'hui, tu vois. Ça ne m'apprend pas ce qu'il veut dire aujourd'hui. Mais bon.
Alors, je suis d'accord que ça t'apprend pas ce que ça veut dire aujourd'hui, mais ça t'apprend ce que les gens ont pensé à une certaine période. Donc du coup, ça peut être intéressant.
Ok, bon, ok. Ouais, allez, je te laisse faire l'étymologie.
Bah ouais, bah j'ai vachement envie.
C'est pas un défaut.
Bah ça vient de l'indo-européen, ça veut dire va chier.
Voilà, vas-y. Voilà. Donne-nous l'étymologie.
Bah vas-y, bah je vais te la donner là. Donc. Mais moi je trouvais que c'était bien parce que regarde.
Vas-y.
Donc ça vient du latin verus. Verus.
Verus, ouais.
Et ça venait de l'indo-européen. Et en indo-européen, ça voulait dire ami. Donc là, t'es content. Et d'ailleurs, tu le retrouves dans ses vérités. La sévérité,
oui.
Aujourd'hui en français,
ah.
Qui est le fait d'être inamical. Ah, non, t'as pas le droit de faire Ah, oh. Genre ça t'intéresse, tu vois, du coup. Ta gueule.
Oh, c'est intéressant.
Mais t'as vu que c'est quand même
j'ai bien
pas
aimé
mal.
La sévérité, mais
oui.
J'ai bien aimé.
Et donc, du coup, il y a quand même l'idée, on peut. Parce que toi, je pense que tu vas plutôt parler de définitif.
Oh, mais je sens qu'il va y avoir une petite citation d'un poème, là. J'entends vérité, j'entends
ah bah,
ami.
Ah bah,
j'entends un poème qui résonne à mon oreille.
Tu veux qu'on le fasse ou pas?
Bah, je pense que je pense que je vois pas comment tu veux le faire, quand tu veux le faire, enfin, à quel autre moment, parce que...
Ah bah, quand j'ai connu la vérité, j'ai cru que c'était une amie, quand je l'ai comprise et sentie, j'en étais déjà...
dégoûtée.
Exactement. Et donc, du coup...
Attends, un poème de qui on va d'être déjà, parce que là, on est entre nous, mais...
D'Alfred de Musset.
Oui, Alfred de Musset. Tristesse.
Tristesse.
Un très beau poème qu'on aime bien entre nous. Enfin, c'est un poème... Tu sais, on a des poèmes
oui,
qu'on
on...
aime entre nous.
Vraiment des...
Dans notre cercle d'amis,
clodo,
nous avons des poèmes préférés. Oui, c'est pas très bien. Tristesse de Musset.
Clair.
On est des merdes. On est des merdes.
C'est,
des merdes.
C'est nous, les plans de blanc.
Oh non, alors ça, je sais ce que c'est ce rire. Je sais qu'on a perdu Lucille pour un moment.
Pardon, je bon. Reviens.
Donc,
non, mais
vérité,
donc du
ami.
Coup, il y a quand même l'idée à la base, et je me disais, putain, mais toi aussi, ça te fait rire.
Il faut se remettre dedans.
Excuse-moi. Donc, il y a l'idée que la vérité c'est quand même un concept positif en fait.
Oui.
Pour tout le monde.
Bah a priori,
enfin,
bah, bon, ça c'est pas une surprise.
Bah,
a priori,
bah non mais
qui est dégoûté de la vérité.
Bah non mais en fait en vrai ça c'est que ça m'a questionné. Je me suis dit mais moi la première je me suis dit, ah ouais c'est ouf en fait. Enfin tu sais. C'est genre admis que c'est bien, tu vois. Sauf pour le mec qui bouffe son steak, du coup,
oui,
qui a genre 10 longueurs d'avance et qui a compris que c'était de la dope, tu vois.
C'est de la merde.
Mais donc, du coup, voilà. Donc, il y avait l'idée que bah, c'est un concept en soi qui est positif.
Oui.
Et après, ce qu'on peut dire quand même du sujet, mais tu veux peut-être en dire un truc, c'est qu'il est paradoxal dans la manière dont il est posé, puisque, on va dire, si tu vas vite, la vérité, c'est un peu un truc que tu considères comme par essence définitif, hein, c'est un truc qui est gravé, qui bouge
oula,
pas.
Je suis tellement
non mais
en
moi je vais pas être d'accord non
ouais.
plus avec ça. Mais t'as l'idée spontanément quand tu dis quelque chose, bah c'est la vérité. T'as un peu l'idée que du coup c'est définitif en fait, enfin que la question elle soulève un espèce de petit paradoxe
okay,
de
ouais.
pensée.
Ok, oui c'est vrai. Alors en fait,
d'ailleurs on parle nous du présent de vérité générale à nos
un
élèves.
Un paradoxe auquel je pense même plus tellement j'étais imbibé de philosophie et que du non mais de,
oui.
tu vois que mes études m'ont dit en fait la vérité n'est pas
oui
n'est
non
pas
mais non mais de
donc,
ouf mais
ouais.
tu vois quand on parle
ouais.
à nos élèves du
mais
présent
oui,
de vérité générale il y a bien l'idée enfin il y a bien un
sûr.
Truc induit de la vérité.
Présent
c'est...
de vérité générale pour je le dis pour les auditeurs c'est que
ça intéresse vachement ouais.
Bah non mais c'est que genre par exemple 2 et 2 font 4, on utilise le verbe là être au présent.
Alors c'est le verbe faire.
Oui. Oui. deux et deux font quatre, donc on utilise le verbe faire au présent parce que sa valeur c'est présent de vérité générale, c'est-à-dire que c'est un présent qui est toujours vrai, Le soleil se lève. Voilà, bon, c'est un présent qu'on utilise pour dire quelque chose qui est vrai de toute éternité. Mais effectivement, ça, on va y revenir parce qu'à mon sens, il y a quand même un problème dans cette expression. Attends, juste sur le sujet, avant qu'on en parle aussi frontalement, quand tu tombes sur un sujet comme ça, en philo, moi, je peux pas m'empêcher de noter que
tu te resserres du vin.
Oui, oui.
Et Henri, in vino veritas.
Je finis la bouteille, il y en a une deuxième, hein, bien sûr.
Okay.
Moi, je peux pas m'empêcher de noter que sur un sujet comme ça, toute vérité est-elle bonne à dire. Ça fait quand
c'est
même
pas ça le sujet. Toute
est-elle définitive. Ça fait quand même sacrément penser à tout ce qu'on critique en philo, c'est-à-dire de tout temps, toute vérité. Enfin, c'est généralité,
de tout temps les hommes.
Voilà. Cette généralité de toute vérité, bon, là, c'est évident que. Si on attend d'un étudiant de philo qu'il réponde non, il ne doit pas juste répondre non, mais je veux dire,
on voit
qu'il y a un piège en fait, parce que toute vérité déjà, quand tu es en philo, on t'apprend, il n'y a pas de généralité comme ça. Toutes les généralités sont à bannir. Et là, je viens d'en faire une en disant toutes les généralités, mais c'est vraiment le béaba de la philo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de généralisation en philo. Et là, quand on dit toute vérité est-elle définitive, tu sais, t'es instinctivement conduit à dire, mais non, en fait, ça ne pourra pas être, il ne pourra pas y avoir une réponse absolument positive, puisque ce tout-là généralisant, il est à proscrire en philo. En tout cas, bon, enfin, là, c'est ce qu'on nous apprend quand on est à l'école. On va passer dans le cœur du sujet. Alors, on va rentrer dedans là.
Et là, il y a pas de jingle, on y va direct.
Non, on l'attaque.
Okay,
on a déjà commencé à l'attaquer, mais là, on va peut-être attaquer. On va peut-être dire ce qu'on en pense.
Bah vas-y.
Alors, je vais faire le naïf. Je veux dire, toute vérité est-elle définitive. Je me suis dit, je vais quand même me mettre un peu dans le camp du oui. Tu sais, je vais faire mon avocat du oui, un peu comme si je faisais une disserte de philo. Et ça sera une position qui sera temporaire. Hein. Qui sera pas,
pas définitive.
j'ai essayé d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être une vérité définitive, puis essayer de voir ce qui pourrait en être de ces vérités définitives. Alors, la première chose à laquelle j'ai pensé, moi, dans les vérités que je pourrais penser définitives comme ça de base, c'est les vérités mathématiques, on va dire. Les vérités qui sont 2 plus 2, ce que je disais tout à l'heure, 2 et 2 font 4.
Ok, moi j'avais noté les vérités factuelles, tu mets ça historique
aussi.
Plutôt, genre telle chose s'est passée à telle date.
Ouais, j'ai pensé aussi aux vérités historiques, genre le 19 juin 1989, je suis né.
Dans ce cas-là, du coup, la vérité, si tu la définis, c'est l'opposé du mensonge.
Ouais, dans ce cas-là, pas vraiment, parce que pour les mathématiques, je suis pas sûr qu'on puisse le dire comme ça.
Moi j'avais pas mis les mathématiques,
pour l'histoire, oui, ce serait la vérité serait l'opposé du mensonge. Et ce serait quelque chose qui serait...
extérieur à soi aussi.
Qui serait extérieur à soi et puis qui ne peut pas changer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer le fait que je sois né le 19 juin. Là, on ne peut plus le changer et il n'y a pas de force dans la nature qui font que cette vérité-là peut être changée.
En tout cas, c'est vraiment un truc ultra factuel. C'est vraiment un truc qui ne t'appartient pas. C'est un truc qui est ouf extérieur à toi. Même là,
moi je suis pas d'accord. Je pense que c'est pas une vérité définitive. Mais...
Déjà, t'as la version des faits, le simple fait que chacun sa version des faits.
Ouais.
Alors après, on peut pas être d'accord sur le fait que t'es né le 19 juin, etc. Mais.
Alors je sais pas si je vais attaquer direct avec ça, parce que là on va aller dans le relativisme le plus total. Mais je pense qu'il y a quand même déjà une possibilité de remettre ça en question. Le fait que je sois né le 19 juin 1989. Il y a possibilité de le remettre en question déjà parce qu'on parle d'un système de reconnaissance de date historique qui est très qui est propre à nous quoi,
est vrai dans notre paradigme.
Voilà, on parle de 1989, okay. par rapport à l'an 0, par rapport à Jésus, mais à la limite ça, on parle de notre système de temps à nous. C'est-à-dire qu'on est dans un système de temps qui nous est propre aussi, de mesure du temps.
La fragmentation du temps telle qu'elle n'est pas du tout... elle n'est pas donnée,
c'est nous qui l'avons faite. Et puis même, j'irai jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire que... peut-être avant d'aller au bout, je dirais que j'utilise aussi un langage qui du coup parle d'un fait.
Ah ouais, tu y vas direct. Tequila, Heineken.
pas le temps de niaiser. Ouais, j'utilise un langage qui est une traduction du réel. Alors là,
les écarts et les médias qu'il y a entre toi et le fait dont veux parler.
Et le réel.
Si on en reste, parce que du coup, on va reparler après, je pense, de ce que tu es en train de dire, mais si on en reste à la définition, si la vérité. C'est le factuel, alors même là, et c'est là qu'il a l'air d'être la vérité, elle a l'air d'être le plus définitif.
Oui, je suis d'accord, c'est quand même là que je vais la trouver le plus facilement.
Mais là encore, et tu vois, je pensais à l'arbitrage vidéo en sport.
Ouais.
Et je me disais, tu vois, même quand t'es placé...
C'est hyper intéressant. là, je suis chaud. Là, j'ai envie d'en parler. L'arbitrage vidéo, j'ai envie de parler.
Mais du coup, même quand t'es face à un truc qui est censé être une vérification d'un geste d'un sportif, je sais pas quoi, pour voir si t'accordes le point ou pas.
Oui.
Même là, oui, il y a une partie des gens qui gueulent et une partie des. En mais fait, tu, le, en... même le factuel, il est soumis à caution, il passe par ton prisme à toi, mais on y reviendra après.
Il y a un gros débat sur l'arbitrage vidéo dans le foot. Mais
et oui, c'est entré il y a pas longtemps en plus.
Ouais, c'est entré il y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans, je sais plus. Peut-être un peu plus maintenant, je sais pas, on vieillit vite et le temps passe. Mais...
on échappe pas au temps.
L'arbitrage vidéo, c'est beaucoup critiqué, notamment pour la règle du hors-jeu en foot, puisque les caméras
au tennis,
les caméras qui sont utilisées, qui sont des caméras très très performantes, ne prennent que, je ne sais pas, là je vais dire quelque chose complètement au hasard, mais je sais que c'est quelque chose qui fait débat, hein, vraiment dans les milieux du foot, que 48 images par seconde ou 72 images par seconde, ou je sais pas combien, et que du coup, bah, si t'avais le double d'images par seconde, vu que ça se joue, et littéralement ceux qui regardent le foot le savent, hein, ça se joue vraiment à un poil de fesse, quoi. Enfin, vraiment. Non, mais les hors-jeu sur un but, c'est vraiment. Ça se joue à 1 mm de la chaussure qui dépasse. Le truc, c'est que si on avait des caméras qui capturaient plus d'images par seconde, bah, il y aurait peut-être plus de hors-jeu qui seraient détectés. Donc, c'est vraiment. Voilà, c'est.
Mais du coup,
là,
ça.
C'est dépendant d'une technologie. Enfin, c'est.
Tu vois bien où on va aller. En fait, on a quasiment terminé le podcast.
Et voilà, c'est fini. Ciao. La vérité n'existe pas.
Non, mais c'est que du coup. Enfin, la vérité, tu y accèdes par les moyens qu'on te donne pour y accéder, à savoir. Ouais. Bah, du coup. Alors, enchaînons. Donc, on a réglé le truc. Si la vérité, c'est le factuel. Ça a l'air définitif, mais en fait, même
alors,
là...
Je dirais que ça l'est quand même dans un système... Enfin, en fait, mais ça va être la même chose pour beaucoup de choses, c'est... enfin, pour beaucoup des sujets, c'est que là, la vérité, elle... par exemple, je suis né le 19 juin, c'est factuel, enfin, c'est vrai dans le système qu'on a accepté de partager tous ensemble. C'est vrai. Après,
d'ailleurs,
c'est vrai
tu soulèves
sans
un truc.
Être sûr, quoi. Enfin, c'est-à-dire que...
Tu soulèves un truc quand tu dis c'est vrai dans le système qu'on a accepté tout ensemble, parce que du coup, moi, je me suis dit, ouais, mais du coup, si tu dis toute vérité telle définitive, ça implique un peu un collectif aussi, en
soi.
Tu vois, il y a l'idée que, enfin, faut qu'on soit tous d'accord aussi pour que cette vérité qui était donnée, elle soit définitive, du coup.
Mais même là... Mais ouais. Oui, oui, c'est vrai.
Et du coup, c'est dobé
mais
aussi.
En plus, mais même, tu sais, en plus, c'est même, c'est vrai sans être certain. Je veux dire, enfin, tu vois, moi, déjà, enfin, bon, je vais pas, là, on va entrer dans les théories du complot de mon anniversaire, mais, tu sais, enfin, c'est compliqué d'aller chercher une preuve d'aller rechercher des gens qui étaient là le jour de ma naissance pour dire que je suis né le 19 juin.
Bah, il y a ton père, donc on peut plus. Et ta mère, on ne peut plus non plus, quasiment. Donc...
c'est horrible. C'est horrible ce que tu fais. Mais, non, mais qui se rappelle que c'était effectivement le 19 juin, que ce jour-là, fin, tu vois, que ce jour-là, il était 16h. Mais pourquoi pas? Mais à la limite, pourquoi pas? Pour mon anniversaire, ça marche. Enfin, pour mon anniversaire, pour le 19 juin, ça marche. Eh, mais on voit bien que quand on dépasse les 50 ans, les 100 ans, là, c'est plus possible, en fait. C'est-à-dire que les faits, oui, les faits que l'on a vécu, en
mais,
fait.
Et les faits qui sont répertoriés.
Répertoriés et qu'on a vécu. Et qu'on a vécu, parce que même la naissance de Napoléon, qui est passé, il y a combien de personnes qui sont passées là où ça a été répertorié depuis, enfin, tu vois. Il y a des centaines de personnes qui ont touché à ce livre, tu vois, qui l'ont. Et c'est compliqué. Alors, quand les gens, ils commencent à me dire que Napoléon, il aimait les haricots verts,
après,
enfin, ça, là, faut, là j'y crois plus du tout.
Après, Henri, après, ça veut dire que là, la vérité factuelle, est-ce que tu penses pas qu'elle existe indépendamment de moi? C'est-à-dire que même s'il y avait plus aucun humain sur Terre, il y aurait toujours le fait que telle personne il y a 3000 ans est née à tel jour à telle heure,
ben
enfin la vérité elle, est-ce qu'elle est bah,
moi je dirais non, j'ai un non parce que s'il y a la personne vérité... pour actualiser la vérité,
voilà,
qu'est-ce
donc
qu'elle
c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que du coup en fait c'est un truc, c'est alors moi je disais collectif, c'était peut-être pas la bonne façon de le dire, mais que du coup la vérité ça n'existe que s'il y a quelqu'un pour dire que c'est la vérité, en fait.
Bah, exactement.
C'est pas un truc en soi,
c'est s'il y a plus d'humains sur Terre, plus personne, plus de, en tout cas plus d'intelligence.
Pourquoi il n'existe plus de vérité?
Bah, s'il n'y a plus d'intelligence, s'il n'y a plus personne sur Terre, s'il n'y a plus rien sur Terre, est-ce que je suis né le 19 juin? Je ne suis pas sûr. Parce que, enfin, elle existe où cette vérité? Elle est marquée où? Elle est, s'il n'y a plus d'humain, s'il n'y a plus ancré dans aucun cerveau, elle est où cette vérité? Elle est, ou alors, à moins de croire en Dieu, en fait, hein, parce que là, je ne vois pas trop de solution. Elle est où sinon cette vérité?
Bah, est-ce qu'elle existe?
Elle restera dans l'univers
vue,
flottante?
Voilà. Choses se passent. Non, mais c'est possible. Les choses, elles se passent. Sans témoin.
Oui, mais ça implique la croix.
C'est du factuel.
En fait,
c'est du factuel pur sans témoin, quoi.
Ouais, mais ça implique de croire en une espèce de.
Mais c'est
de...
pas forcément la vérité dans ce cas. C'est juste que c'est pas le bon mot. C'est juste ce qu'il se passe.
Oui, ce qu'il se passe. Mais oui,
ce qui advient.
Mais si personne est d'accord pour dire ce que, enfin, s'il y a personne pour s'accorder sur
ce qui
est vrai
se passe,
ou faux,
oui,
bah,
oui.
Il y a plus de vrai de faux. Enfin, tu vois. Bon,
Bon, vérité factuelle.
Bah, c'est fini. Hey, ciao.
Bah non, parce que...
Bonsoir à tout le monde. Et votez pour le prince Touché.
Moi, il y avait d'autres, d'autres définitions possibles de la vérité.
Puis d'autres grands thèmes, surtout ce qu'il faut traiter.
Ah, putain, mais j'essaye d'éviter. Mais je sais qu'on va y aller. Bah vas-y, bah allons-y maintenant. Vas-y, je mets les pieds dedans. Il y a si la vérité, c'est en gros ce qui se démontre, enfin, on va dire très vite, la vérité scientifique.
La vérité scientifique.
Donc en gros, là, c'est pas un truc extérieur, c'est la vérité du cerveau. Enfin, je sais pas, c'est ce que le cerveau arrive à... Est-ce que t'es d'accord à peu près?
Ouais.
Le type touche son stylo là de manière complètement lascive, parce qu'il est excité en fait. Il va parler de ce qu'il aime bien.
Alors la vérité scientifique. Alors moi ça me passionne parce que...
Mais pourquoi?
Mais alors non, mais ce qui me passionne par rapport au sujet,
Oui.
C'est que effectivement tout le monde ira te dire bah oui il y a une vérité, la première à laquelle on pense et avant les faits historiques sur lesquels on s'est emballé là, c'est la vérité de la science, c'est-à-dire 2 + 2 = 4, un triangle à trois côtés.
Attends.
Et même allons plus loin, en physique il y a des gens qui vont dire la gravité c'est vrai, qui vont te dire je sais pas moi la Terre est ronde c'est vrai, par exemple ce genre de vérités qui sont scientifiques. Et là où la philosophie, moi c'est pour ça que ça m'a passionné, m'a fait le plus gros mindfuck, vraiment le plus gros, vraiment violage d'esprit, vraiment ça m'a atteint, mais
viol
d'esprit, pas viol. Là c'est de la philosophie, mais en fait la philosophie et les scientifiques en fait eux-mêmes, hein, et là on parle vraiment, enfin c'est souvent les plus grands épistémologues sont des scientifiques, en fait te montrent que non, en fait la Terre est ronde n'est pas une vérité définitive, de plus
jusqu'à
deux,
preuve
quatre,
du contraire en fait
n'est pas
c'est...
une vérité définitive, ce n'est pas de la science de dire c'est vrai. Le scientifique ne te dira jamais c'est vrai, il te dira
ça
n'a pas été réfuté. Voilà. Le terme c'est réfuté. Et ça c'est vraiment c'est pas une vue de mon esprit.
C'est un peu la présomption d'innocence en justice
c'est
en
la
fait.
La présomption d'innocence. Et la science n'a jamais, mais jamais aucun scientifique, hein, que ce soit les plus grands scientiques, Einstein, Galilée, jamais un scientifique n'a prétention de dire le vrai. Les frères Bogdanov ne disent jamais on dit le vrai. Ils te disent on te donne une théorie qui pour l'instant n'est pas réfutée et qui est en attente de réfutation. Et la science ne marche que par conjecture et réfutation. C'est un titre. Je cite un titre de Karl Popper, du coup. Ouais, c'est vraiment bien. Ouais, c'est vraiment cool.
Le Popper, c'est bien, mais Karl Popper, je sais pas si c'est très bien.
C'est Karl Popper. Et que te dis, en fait, oui, bah, les théories scientifiques n'attendent que d'être réfutées. Et c'est même plus que ça, c'est qu'une bonne théorie scientifique est une théorie qui en fait prévoit en son sein la possibilité d'une réfutation. C'est-à-dire que n'est scientifique que ce qui pourra être réfuté. Une théorie n'est scientifique que si elle peut être réfutée. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit, par exemple, une théorie scientifique, il invente une théorie scientifique, il te dit, je sais pas moi, la Terre.
Les platistes.
Oui, il te dit, la Terre est plate. C'est pas une théorie scientifique parce que... Enfin si on dit la Terre est plate, ce serait une théorie scientifique en soi, puisqu'il suffirait de montrer qu'elle est ronde pour la réfuter. Mais si on te dit la Terre est plate, quelle que soit l'observation qu'on en fasse, là c'est pas une théorie scientifique. Parce que tu n'acceptes pas la réfutation. Pour qu'une théorie soit dite scientifique, il faut qu'elle accepte la réfutation. Et du coup, les théories scientifiques sont des théories qui sont réfutables. Et la science n'avance que comme ça. C'est-à-dire que depuis que le monde est monde, de tout temps les hommes, les scientifiques n'ont avancé que par réfutation. Et il n'y a pas de, en science, il n'y a pas de collection de théories qui s'empilent les unes aux autres. Non, il y a réfutation des théories précédentes. Et c'est fait exprès. Et aujourd'hui, c'est absolument... Je pense que c'est certain, à moins que l'humanité vive assez longtemps pour ça, à moins qu'un jour la relativité sera réfutée complètement, que la gravité, la théorie... Bon, la gravité, ça a déjà été réfuté par la relativité en partie, mais que ça sera complètement réfuté un jour. La théorie sur... tout ce que l'on pense aujourd'hui qu'on tient pour vrai sera réfuté un jour. C'est absolument certain si l'humanité va assez loin pour en arriver jusque-là. Ça, c'est encore une autre question. Et du coup, c'est...
Le transhumanisme.
Le transhumanisme. Mais du coup, la science, c'est pas la science. La science, c'est pas le discours du vrai, c'est le discours du réfutable et de la théorie. Et du coup, on peut quand même raccrocher un petit peu de vérité dans tout ça. C'est-à-dire que si je dis un triangle a toujours trois côtés, c'est vrai dans le système euclidien, par exemple.
Ça, comme c'est vrai 2 + 2.
C'est vrai dans le système mathématique classique.
C'est des paradigmes
que tu poses. C'est vrai dans le paradigme que tu choisis. Un triangle a toujours trois côtés. C'est vrai dans le paradigme euclidien. Par contre, c'est faux si tu sors de ce paradigme. Et pour le coup, ceux qui font des maths là pourront nous laisser des petits coms pour nous dire qu'effectivement, il y a des systèmes où les triangles n'ont pas trois côtés. On peut sortir du schéma euclidien. On peut sortir aussi de 2 plus 2 égale 4. Je pense que là, pour le coup, il y a plus de... Même, je pense que même en terminale, on commence à voir ce genre de choses. Et du coup, ça, c'est hyper intéressant. C'est qu'il y a du vrai, mais dans un paradigme. Et effectivement, dans un paradigme, là, tu peux trouver une vérité. C'est-à-dire que tu dis, si même moi, là, j'invente un paradigme, moi, dans mon paradigme... dans mon paradigme à moi, je vais être très basique, le sel, ça pique, d'accord ? Et à partir de ça, je te dis que si je mets du sel dans un plat, ça va un peu plus piquer qu'avant. Bah, si tu as accepté le paradigme de base, le sel, ça pique, oui, tu vas dire oui. Et encore que... Mais voilà, dans un paradigme, il y a une vérité. Et ça, c'est hyper intéressant de voir que bah, tu peux accéder à une vérité dans un système.
Oui, mais c'est ce que tu dis, c'est que... Ouais. Il faut commencer par l'accepter.
Oui, et puis du coup, quelle est sa valeur, cette vérité ?
Tu joues un jeu, quoi. Et tu joues le jeu de la vérité.
Et puis...
je pensais pas que ça te ferait rire.
Non, puis en plus, du coup, quelle est sa valeur, cette vérité ? Elle est nulle, en fait.
Bah,
c'est une vérité qui est
nulle. Elle vaut dans les frontières du territoire que t'as posé.
Mais oui, mais du coup, c'est nul. Mais c'est
les frontières, elles sont...
C'est parce qu'on attend d'une vérité quand on dit la vérité, en fait. C'est ça qui est beau.
Alors du coup... Transition ou pas, c'est possible.
Vas-y,
bah, moi, je vais arrêter avec l'épistémologie.
Je vais aller chercher une bouteille de vin et je
te laisse. Coup, qu'est-ce que je fais ?
Bah, continue de parler.
Et tout, mais qui c'est qui va faire ?
Vas-y, continue de parler.
Ah non, mais c'est horrible. Ah, le type se lève pour de vrai, putain, c'est horrible. Ok, bah, je sais que tu m'écoutes, mais c'est pas pareil, tu vois. Il y a personne en face de moi. La vérité, si je mens là, Henri, putain, c'est l'enfer. Bon, il y a aussi la vérité. Ça peut être parce que du coup, on n'a pas du tout parlé de la réalité là, Henri. Alors là, bah, tu réponds pas puisque t'es pas là, mais c'est comme la théorie de la caverne de Platon. Il y a l'idée du coup. Enfin, ça m'y a fait penser. Alors après, comme d'hab, hein, moi je parle des trucs que je maîtrise pas. Oui. Mais il me semble que dans l'allégorie de la caverne, il y a. J'ai dit la théorie de la caverne, mais bon, je pense que c'est pas grave. Mais genre, dans l'allégorie de la caverne, du coup, il y a les pélos, ils sont dans le monde sensible, et donc en gros, ils voient les ombres. Des objets et il pense voir les objets. Ensuite, le philosophe, il se pète un scan, il se tape une petite mission, il sort de la caverne, tac, il voit la lumière, il voit les vrais objets.
Ouais.
Et en gros, c'est le monde des idées.
Ouais. Et le monde des idées, c'est le monde du vrai, pour le coup.
Voilà, sauf que ça, en fait, déjà, premier truc qu'on a, enfin, on l'a pas trop dit, mais c'est que la vérité, enfin, elle est, enfin, on tend vers elle, mais c'est un concept, mais pour le coup, sans mauvais jeu de mots, c'est une vue de l'esprit, en fait. Enfin, la vérité, est-ce qu'elle existe, en fait ? Est-ce que c'est pas juste quelque chose vers lequel tu tends ? Parce que Platon, tel que c'est posé, on a l'impression que, genre, tu peux la sortir et la théma, tu sais, genre, théma la vérité,
ouais,
tu vois.
Je crois.
Mais genre, en vrai, enfin, déjà, c'est la question, elle est problématique, parce que, déjà, est-ce que c'est pas juste une...
Mais tu vois, vers lequel tu tends. Tu vois, la théorie des idées chez Platon, qui bah oui, l'idée est vraie, mais là, moi, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je pense que si on avait Platon avec nous, qui était à côté là, il nous dirait que oui, effectivement, tu vois, sans humain, les idées seraient toujours là. C'est-à-dire que l'idée
de chess
serait toujours
là. Et du coup,
mais
là, ça demande.
Mais en fait, pour moi, je veux bien l'accepter, mais ça demande, en fait, de quand même d'accepter une forme. Pour moi, ça, c'est quand même une forme de religion. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de très, très religieux, c'est-à-dire de croire en l'existence de quelque chose en dehors de l'humanité, l'humain pour le concevoir.
Et puis, en dehors de l'humain, mais dans tous les sens du terme, en dehors de. Parce que, en fait, du coup, quand bien même la vérité, ce serait ce qui est conforme à la réalité et ce que tu vois vraiment. Mais ce que tu vois vraiment, tu ne le vois finalement qu'à travers tes yeux. Et tes yeux, ils valent... Enfin, tes yeux, tes pensées, ton cœur. En fait, si tu dis que la vérité, c'est la vérité... Là, on avait dit tout à l'heure, la vérité, c'est celle des faits. Ensuite, c'est celle du cerveau, on va dire, c'est celle de la science. Si là, ensuite, la vérité, c'est ce qui est conforme au réel, mais le réel, il n'est défini que par ce que ton cœur en dit et ce que tes yeux en voient.
Bien sûr.
Et donc, du coup... En définitive, dans ce cas-là, il y a une vérité qui est définitive, mais elle est définitive que dans l'instant durant lequel tu la conçois.
Après, Platon te dirait que justement, son travail de philosophe, c'est de dépasser ce qu'il conçoit et de voir la chose en soi.
Tu vois, fait comment ?
Bah ouais, ça je sais pas. C'est très sujet.
C'est mais ça, en fait le type il a juste écrit une vieille allégorie pétée, tu sais, mais genre ça marche pas dans le réel.
Non mais moi je suis pas du tout, je pense que c'est quelque chose... Mais... Je pense que c'est quelque chose de pété, Ok. Mais dans ce que tu dis, et là je vais raccrocher un truc auquel je me dis, il y a peut-être une vérité quand même à trouver quelque part. Tu dis effectivement, si c'est adéquation au réel, ça ne marche pas parce que ce n'est qu'adéquation par rapport au réel que je peux percevoir. moi, et que le réel,
oui voilà,
et que le réel donne à voir et que
voilà, voilà. Et que il est lui-même soumis à mille contingences. Alors,
on va,
ouais,
on va un peu retomber sur ce qu'on disait dans le premier podcast, parce qu'il y a peut-être quand même du coup une vérité, Léna, tu acquiesces. Il y a peut-être une vérité potentielle, c'est la vérité en assumée du ressenti ou du
la vérité du cœur.
La vérité du cœur assumée comme telle, en fait.
Oui.
Là, et je vois pas quel obstacle il y aurait à la prendre comme vérité, mais encore une fois, vérité nulle, parce qu'en fait, elle ne me dit rien sur le monde. Plutôt que de dire je suis né le 19
juin. Mais elle me dit des
choses
sur moi.
Elle me dit des choses sur moi. Plutôt que de dire que je suis né le 19 juin comme vérité immuable, je vais dire le 22 mai 2017, j'ai aimé regarder Le Parrain. Tu vois ? Bon, ça, là, je ne parle que de mon ressenti. Et a priori, là, je vois pas trop ce qu'il y aurait comme obstacle à, ce, à cette expression de mon ressenti où j'aime regarder Le Parrain, ou bref, ce qu'on veut, j'en sais rien.
Du coup, moi, je m'étais dit aussi, de, si tu pars de ce machin-là, une vérité du cœur qui pourrait du coup être vraie, mais blablabla, comme tu dis, parce qu'elle elle est vraie, parce qu'elle dit ta vérité à toi à l'instant où tu la penses, c'est la morale. Je me disais, en fait, le bien et le mal...
Oui, non, mais la morale, elle a une fonction universaliste, elle a une fonction à dire des choses sur les autres, tu vois.
Ah non, alors c'est pas... C'est, okay. Je me suis mal fait comprendre, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, à un instant T, quand tu considères que ça c'est bien et ça c'est mal, ouais, c'est une forme vérité que tu poses sur le monde, parce que, en fait... Et puis d'ailleurs, toute vérité, telle définitive, c'est aussi définir les choses, enfin, tu vois, ça c'est bien, dire ça c'est mal, c'est poser une définition sur un truc, en fait. Ouais. Et du coup, je me disais, bah, à la rigueur... la vérité du cœur, c'est à la fois la moins vraie et la plus vraie.
Ouais, mais...
mais si tu l'embrasses comme étant, je sais pas...
Mais tu vois, là, elle est définitive que si tu acceptes qu'en fait, elle soit marquée par un temps donné et qu'elle peut changer. Elle est pas... Enfin, elle est définitive.
Elle est vraie, mais c'est comme je t'aime. C'est comme dire je t'aime.
Mais c'est un je t'aime qui ne marche qu'à un moment.
Bah, comme je t'aime, donc.
Oui, oui. Non, mais du coup, c'est terrible parce qu'en fait, tu dis que la vérité, elle est définitive... C'est-à-dire que je
tu
l'ai aimé...
Tu la ressens comme définitive.
Non. Oui, ou alors de dire je l'ai aimé à cette époque-là. Ça, c'est définitif. Mais par contre, le fait que je l'aime, c'est pas définitif. Tu vois ?
Non, mais il y a aussi horrible, le truc... Non, mais oui, mais enfin, c'est même au-delà de ça. Parce que quand tu dis je t'aime, tu sais au fond de toi qu'il est pas nécessairement définitif. Mais quand tu le dis, tu le souhaites qu'il le...
Enfin, je suis même pas sûr que tu saches que ce soit pas définitif. Je pense que tu...
Bah, si t'as vécu plus de 10 jours dans ta vie...
Lucille. Tu veux qu'on parle de toi vraiment là, de nos discussions de ces derniers mois?
Non.
Non, tu veux pas qu'on en parle?
Attends, je suis dégoûtée parce que t'as coupé tout à l'heure des blagues que les pauvres auditeurs auront jamais,
non, mais
ça tu vas pas le couper.
Non, mais où je t'explique, où tu me dis, tu me croyais que ton je t'aime était définitif.
C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme un je t'aime dans le sens où c'est vrai au moment où tu le dis, et au moment où tu le dis, non seulement toi tu le ressens comme étant vrai, mais un de tes souhaits, en tout cas pour moi, c'est que ça le reste.
Oui, mais ça, c'est un souhait. Mais
comme la vérité. Enfin, oui. Au final, tu vois, je parle pas de la vérité factuelle, mais la vérité de... Parce que finalement, on se construit avec des vérités.
Oui.
Parce que si on va tomber dans le relativisme absolu, rien n'est vrai, qui suis-je, où vais-je, est-ce que je suis un papillon
souvent
qui rêve qu'il est là-haut-dessus, ou est-ce que c'est là-haut-dessus qui rêve qu'il est un papillon, c'est fini, tu vois.
J'adore.
Bah moi aussi.
J'adore.
Moi aussi.
C'est qui est-ce qui a dit ça? Je connais pas cette phrase.
C'est bah, je pense que c'est là-haut-dessus ou le papillon.
Ça va être trop bien cette phrase en tout cas. Elle est ouf.
Donc voilà.
Okay.
Non mais tu vois, il y a un truc genre la vérité t'en as besoin pour te construire, parce qu'en fait en définitive tous tes choix de vie, tous tes concepts, tous tes paradigmes, finalement tu les adosses à ce que tu conceptualises comme étant la vérité. Mais effectivement, mouton, faut pas s'emballer dans le sens
mouton.
Quoi?
Mouton, vraiment, c'est...
Faut pas s'emballer dans le sens où, bah, déjà, ça dépend effectivement de ouf de nous, c'est hyper soumis, c'est fluctuant à gogo, enfin, voilà quoi. Après, c'est pas acheté, l'idée de la vérité, elle est pas achetée. Mais... T'as quoi? Enfin, c'est juste, ça marche pas, quoi.
Et toi, t'en penses quoi? C'est aussi le podcast qui va discuter, réfléchir grâce à des références cinématographiques et musicales. Et pour ce deuxième épisode, c'est toi qui étais en charge du film, Lucille,
oui,
que tu as trouvé hier soir, enfin que j'ai trouvé pour toi quasiment.
Non, je te l'avais envoyé sur WhatsApp, qu'est-ce que tu me fais?
Enfin, après 1000 propositions ratées, je t'ai dit vas-y prends ça, ça marche et tout, c'est bon, c'est un film que j'aime bien en plus. Qu'est-ce que tu as choisi comme film, Lucille?
J'ai choisi Men in Black 2.
Allez, on écoute la bande-annonce pour ceux qui ne se rappellent pas ce que c'est.
Tous les jours, pour des millions de gens, c'est métro boulot dodo et la vie passe tranquillement. Mais pour les Men in Black, c'est le même boulot dans un tout nouveau style.
Et tu reviens d'une autre planète et tu débarques en faisant la tête et tu crois que je vais faire la fête. J'aurais dû changer la serrure, j'aurais...
Franck !
La Terre va avoir une galaxie de problèmes.
Quel genre ?
Mortel, fatal, dévastateur.
Et le seul agent capable d'empêcher ça...
Appelle-le, maintenant.
Ne sait même pas qu'il est un agent.
Et tu te souviens pas de moi, mais...
Men in Black 2, Lucille. Choix surprenant, s'il en est. Est-ce que tu peux
pourquoi
nous... Bah, c'est pas un classique du cinéma.
Ni de la vérité.
Ni de la vérité. A priori, je pense que... En terminal,
si
c'est rarement cité, mais une blague 2, et pourtant,
alors après, c'est pas pour le film en entier, mais toi, tu sais très bien pour quelle scène.
Il faut peut-être expliquer que t'as pas choisi ce film pour la totalité
voilà,
du scénario.
Mais c'est pour ça, parce que t'as été un peu salaud, parce que en vérité, à dire le vrai. Pourquoi j'avais hésité à le prendre, c'est parce que du coup c'était pas pour le film entier, c'était juste pour la scène, c'est la scène de fin en fait, c'est la dernière, ouais. C'est la dernière scène
le
du 2.
Le film dans sa totalité, bon c'est un film d'action d'année 2000 quoi.
Ouais, voilà. C'est la vérité, non, avec Tommy Lee Jones.
Enfin, voilà, et Tommy Jones et Will Smith, c'est pas un film bon.
Bon, attends, mais moi, tu sais, si demain tu me dis vas-y, on met le 1, le 2, je suis
trop bien, Men in Black. Ouais, même dans les films que j'aime, c'est pas non plus, je l'aime bien, mais je suis pas non plus fou de Men in Black quoi. C'est pas non plus...
Ah, ça soulève des questions de ouf. Hein.
Bah, la fin de Men in Black 2 soulève des questions de ouf. Mais c'est littéralement 30 secondes de scène. Hein. C'est...
Ouais, mais qui rachète
bon, est-ce
bien
que tu
choses.
Peux vraiment expliquer cette scène?
Bah, je suis pas sûre. Enfin, si, oui, je peux.
Est-ce que, voilà.
Donc, en fait, en gros, fin de Men in Black. Donc, on voit, ils sont en costard. Vous savez, Men in Black, du coup, ils se battent. Ils ont affaire aux extraterrestres, etc. Eux, ils savent la vérité. Sur le monde. Le monde est plus vaste que ce que nous, communs des mortels, nous en savons. Et il y a des milliards de planètes avec des milliards de bestioles dedans. Et donc, du coup, il y a Will Smith qui, du coup, a déjà découvert tout ça dans le 1. Dans le 2, ça y est, il a poncé le machin. Et du coup, il a une espèce de moment où il se dit ça y est, les gars, je suis grave dans le game. Enfin, tu vois,
Peux te couper parce que je pense que tu oublies quelque chose d'essentiel. Je pense que tu oublies quelque chose d'essentiel. C'est que depuis le début du film Men in Black 2,
Tu veux dire qu'il a raccroché les gants?
Non. C'est que il y a Will Smith a accès avec Tommy Lee Jones. Ils ont accès dans une gare à un placard.
Ah oui, pardon.
Et dans ce placard, c'est une porte. Là où on met les colis Amazon un peu là, c'est un peu ces trucs-là.
Oui.
Voilà, un truc comme ça. Il a une clé dans laquelle il peut ouvrir ce petit. C'est vraiment un tout petit truc quoi.
Les trucs aux États-Unis quoi.
Voilà,
comment ça s'appelle?
Comme les trucs de colis Amazon là.
Oui.
Je sais pas comment ça s'appelle.
Un casier quoi.
Un casier. Voilà, il a accès à un casier. Et quand il ouvre ce casier en fait, à l'intérieur du casier, il y a un monde, tout un monde de.
Un microcosme
de bestioles minuscules. Vraiment minuscule, qui en fait, quand lui ouvre le casier, pense que Will Smith est leur dieu. Parce que du coup, il y a le visage de Will Smith qui apparaît en énorme pour eux, vu qu'ils sont minuscules. Et en fait, pour cette population minuscule, tout leur monde est dans un casier. Mais pour eux, c'est énorme
mais
le casier.
Pour eux, c'est leur monde.
Voilà, pour eux, c'est énorme le casier. Et du coup, ils pensent que Will Smith est un dieu qui parfois apparaît pour leur parler. Parce que ça a son importance quand même. Et donc,
Will Smith a l'impression un peu qu'il a figured it out, tu vois, qu'il a compris un peu les bails du machin.
Ouais.
Et là, Tommy Lee Jones lui dit un truc genre, mais toi, t'as vraiment rien compris à rien.
Ouais.
Et donc, en fait, là, alors je sais plus exactement comment ça se passe.
Ils sont dans le QG du
Men in Black, mais du coup, il ouvre, et c'est quoi? Il ouvre
en fait,
une porte
en fait,
où il soulève un couvercle.
Je le raconte, du coup, je prends la parole. En fait, ce qui se passe, c'est que Will Smith dit à Tommy Jones, mais ces petites bêtes qui sont dans leur monde là, on devrait quand même leur dire qu'en fait, il y a un monde beaucoup plus vaste à l'extérieur. On devrait leur expliquer qu'ils ne sont que dans un casier et que le monde est beaucoup plus grand. Parce que là, en fait, ce qu'on fait, c'est horrible pour eux. Et c'est là que K lui dit, t'as vraiment rien compris.
Rien compris.
Et là, il pousse une porte où c'était marqué sortie interdite, ne jamais ouvrir la porte. Et là, il pousse une porte.
Et c'est gigantesque et de fait, l'autre côté. Et tu comprends que eux-mêmes, c'est les poupées russes. En fait, c'est voilà, du méta dans du méta.
Eux-mêmes sont dans un casier. En fait, ils sont dans un casier de garde.
Ils sont dans un casier, ouais.
Eux-mêmes, l'univers entier, l'univers tout entier, lui-même, n'est contenu que dans un casier de garde d'un, voilà, d'un univers qu'on imagine encore plus gigantesque.
Donc la vérité, elle est zéro définitive, puisqu'elle est, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle est définitive que dans le paradigme dans lequel elle est capable d'exister. Et du coup, entre les murs du casier, mais il suffit que tu aies un casier plus grand et déjà tout est redéfini.
Tout est redéfini. Et puis en plus, on peut imaginer voilà, à Escient que tout cet univers, qui, voilà, cet univers de la nouvelle gare soit lui-même contenu dans une nouvelle gare, enfin dans un nouveau casier. Enfin, c'est l'idée. Et du coup, là, tout ce en quoi on croyait se retrouve complètement.
Ou même tout ce. Enfin, même pas, c'est même pas de la croyance, tout ce que tu sais. Tout parce que tu sais, crois que tu sais, ouais, en fait, au final.
C'est, mais là, c'est plus que sur la vérité, je dirais que c'est un moment de chute métaphysique.
Ah bah, pour qu'il regarde cette l'abîme. Scène.
Ah bah là, tu contemples l'abîme.
Ah ouais,
l'abîme,
ouais, non, mais Man in Black la, 2, l'abîme te contemple.
L'abîme te contemple.
Mais oui.
À la
mais
fin de Man in Black 2.
Si t'es pas bien dans ta vie, ou si t'hésites, ou si t'es. Ouais, il faut que tu mates, mais la fin
alors,
de Man in Black 2.
Surtout pas le regarder.
Surtout pas, ouais.
Moi, vraiment, j'ai vu ça, genre, j'avais 12 ans. J'ai,
ah bah
j'ai failli me suicider à 12
c'est le vertige.
Ans. J'ai failli me suicider à
c'est
12
le vertige.
Ans. C'est horrible. C'est...
Mais après, en vrai, enfin, c'est marrant parce que du coup, on est vraiment dans le déni. Hein. Quand on est vivre, c'est vraiment être dans le déni parce que ouais, en définitive, t'as pas besoin de la scène de Men in Black 2 pour le savoir. Ouais, c'est juste qu'elle te le.
Tu sais que moi, je l'ai vu jeune et je crois que c'était une révélation. Vraiment, enfin, sans rire, je crois que c'était une révélation.
Oui, cette scène. Oui, non, mais je comprends. Mais je sais que cette scène, elle te touche de ouf et tout, mais. Non, mais elle est trop bien cette scène.
Ah,
bah,
elle est
trop, non, trop
franchement,
bien.
Franchement, je la mets dans mon top
elle
2,
dit, elle
10
elle
de
dit,
mes meilleurs scènes
elle
de
est
cinéma.
Trop bien. Elle
c'est
est trop, trop bien.
De Men in Black 2.
Et tu sais que, au-delà de ça, Henri, ouais, ce qui est ouf dans cette scène, c'est pas tant ce qu'elle dit, mais c'est Tommy Lee Jones. C'est parce que lui, il a accepté. Ouais. T'as vraiment rien compris. Ouais. Lui, le mec est détente. En fait, lui.
Et puis, alors, lui,
c'est le génie.
Alors, c'est-à-dire que lui, il est prêt concrètement à sacrifier sa propre vie. Bon, il n'a pas beaucoup de sens, parce qu'il
oui,
sait,
oui,
mais
oui,
il est prêt à sacrifier sa propre vie, son propre plaisir pour la survie d'un univers qu'il sait n'être qu'un casier de garde.
C'est
c'est-à-dire
ça.
Que...
C'est un peu comme si Tommy Joe était en train de fumer une clope en se marrant en voyant Platon sortir doucement de la caverne et le voir de haut et dire le gros, il sait même pas qu'il est dans une énorme caverne lui-même.
C'est... Bah, oui. À lui, il a un détachement total. Enfin...
Non, mais oui, c'est lui qui est touchant.
Ah, bah, il est super touchant.
Enfin, c'est pas s'il est touchant, il est fameux, quoi.
Mais pour le raccrocher à quelque chose de très concret, très, très réel, parce que là, on est sur une scène de science-fiction pure, puisque dans la gare, il y a des extraterrestres qui sont en train de marcher et qui sont comme s'ils allaient prendre le train, mais c'est quelque chose qu'on vit, en fait, je veux dire, concrètement. Parce que,
donne-moi un exemple.
Bah, face à l'immensité de l'univers, on le
ah
vit
bah
concrètement,
oui,
puisque nos scientifiques, aujourd'hui, ne savent pas dire la limite de l'univers, on le dit infini.
Le silence éternel de ces espaces infinis,
ouais,
m'effraie, quoi.
Voilà, on le dit infini. C'est que
c'est Pascal Obispo, je crois.
J'ai beaucoup aimé le fait que tu cites quelqu'un qui porte le même prénom, du coup que l'auteur Pascal en l'occurrence. Parce que c'est Blaise
les
Pascal qui a
dit ça.
C'est Blaise Pascal en l'occurrence. C'est assez je pense évident pour tout un chacun.
Qu'est-ce que tu prends?
J'ai eu un petit problème de micro, je gère comme je peux. C'est assez évident pour tout un chacun que face à un univers infini, effectivement, nous ne sommes rien.
Nous ne sommes
rien. À
bah,
moins,
poussière d'étoiles. On
et à
est
moins,
que
encore
d'aller.
Un sujet qu'on est obligé de traiter aujourd'hui, alors que il me semble qu'il y a un terme de vérité éternelle et
oui,
définitive.
Mais non, on a décidé qu'on n'en parlerait jamais.
À moins de croire en Dieu. Oui, c'est vraiment un sujet.
Mais le type, il résout tous les problèmes, donc zéro.
Ah,
mais,
ça, c'est clair, c'est l'anti-philosophie. Ah, c'est-à-dire, à la fin, c'est... tu dis, ah oui, c'est vrai, il y avait Dieu, putain. c'est-à-dire que oui, effectivement, sauf si tu crois en Dieu et tu crois que,
ah bah voilà,
que l'homme est une création qui est très particulière, la création particulière dans tout l'univers, mais à moins de croire en Dieu, ce que ni toi ni moi ne faisons au quotidien, a priori.
C'est pas faute d'essayer.
À moins de croire en Dieu, il n'y a pas de possibilité de nous imaginer une importance quelconque dans cet univers. Et même à ce niveau-là, enfin voilà, la survie de notre monde.
Oui, mais
oh
t'en bats les couilles de
on
tout.
T'en bats les couilles. On vit dans une, on est dans un casier de gare.
Ah bah oui.
Moi, je suis pas.
T'imagines ce podcast à l'échelle de. Oh,
moi, je suis pas comme. Moi, je suis pas comme K. Hein. Je veux dire, je m'en fous en vrai. Hein. Tu sais, le monde va exploser demain. Oui, bon, très bien. J'irai au revoir à mon fils, à ma femme, puis voilà. C'est bon, ça ne sera que ça, quoi.
Là, je réfléchis. Je crois que je suis d'accord. Je crois que, en tout cas, je sais plus. Est-ce que c'est intéressant? Mais en... bon, non. Allez, okay. Je reste dans le cas.
On va écouter une petite chanson alors.
Ah oui, c'est toi qui as choisi aujourd'hui.
Allez, j'ai choisi une chanson, on se l'écoute tout de suite.
Des centaines de trucs sur le feu, mais je ferai juste ce que je veux quand même. Au fond, je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait tour du monde,
allez, mais si, on se veut, c'est être à la maison.
Au fond, je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison.
Ok, on est sur une chanson
d'Orelsan.
Alors Orelsan, alors déjà je tiens à préciser que je déteste cette chanson.
Oui, bah normal.
Eh, je déteste
bien
cette
sûr.
Chanson pour ce qu'elle
bah,
représente.
De toute façon, le rap chanté d'une manière générale, on n'est pas hyper d'accord. Mais...
Et moi ça va un peu mieux maintenant avec les années qui passent, je vieillis.
Tu sais ce que tu me disais pendant qu'on l'écoutait.
Ouais, le rap chanté ça va un peu mieux, je vieillis, donc ouais, je m'adoucis. Même si je déteste toujours ça.
Et le rap dansé,
mais...
t'aimes bien.
Ouais, bah, voilà maintenant, mais en fait tu sais, je vieillis, donc bah, je vais à des mariages, je danse sur des chansons de rap. Enfin bref, ça ne rien ne va plus, tu vois. Mais bon, je déteste cette chanson, je déteste surtout ce qu'elle représente parce que on peut, bah, pour les plus jeunes de nos auditeurs, on peut le rappeler, quand nous étions jeunes, Lucille, ça remonte à un petit peu de temps. Bah, Orelsan, c'était un rappeur street crédible.
Carrément.
Quand on était jeunes, c'était un rappeur qui.
Toi et moi, on écoutait des trucs salés. Hein.
Quand on était jeunes, c'était un rappeur qui passait
pas aux victoires de la musique.
Non, c'était un rappeur qui comptait dans le milieu du rap. Et voilà, c'était un vrai. Enfin, je sais pas, vrai, ça veut rien dire vrai encore une fois, mais c'était un rappeur en tout cas qu'on pouvait se vanter d'écouter. C'est devenu un rappeur à minette.
C'est
avec
mainstream.
Cette chanson. C'est cette chanson qui l'a fait devenir vraiment, qui l'a fait rentrer. Ouais.
C'est l'album Le Chant des Sirènes, quoi.
Exactement.
C'est vraiment
c'est la chanson qui l'a fait rentrer dans le game du rappeur chanté à tube, quoi. Et donc effectivement, Orelsan, il y a une, enfin voilà, pour moi.
C'est dommage parce que je crois qu'il nous écoute.
Pour moi,
on est passé à 14 abonnés.
Ça a été la chanson vraiment en plus marquante parce que j'adorais Orelsan et je l'ai détesté d'un coup à partir de cet album-là, peut-être même un peu de l'album d'avant, pour ce que ça a représenté. Maintenant, aujourd'hui, j'ai vieilli.
T'acceptes tout.
J'accepte absolument tout et je suis très content pour lui qu'il fasse de la moula avec cette chanson. Vraiment, et je suis même prêt à danser sur cette chanson, il n'y a aucun souci. Donc, Orelsan, La Terre est ronde. Alors, on a passé que le refrain et parce qu'en fait, je n'ai de choses à dire que sur le refrain. Bref, littéralement le couplet, j'ai rien à dire dessus par rapport au thème. Par contre, le refrain, j'ai quelque chose à dire dessus. Puisque le refrain, c'est au fond, je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est
être à la maison.
Et alors là, je trouve que c'est vraiment une espèce de synthèse en fait de ce que j'ai dit sur la science. Alors je dis ce que j'ai dit parce que j'avais prévu, mais bon, on était assez raccord sur la science. C'est-à-dire que la terre est ronde. La terre est ronde, là on est sur une vérité qui est présentée comme scientifique. Mais Orelsan, quand il le dit, lui, il le dit de manière subjective.
Je crois que la terre est ronde.
Oui, mais même plus que ça. C'est que il dit la terre est ronde pour une seule bonne raison, et c'est pas parce qu'on l'a observé, pas parce que des scientifiques nous ont prouvé que la terre est ronde, parce que là on sait que ça va un jour être démontré comme faux, pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer. Le fait que, par exemple, la forme ronde ne soit qu'une vue de l'esprit. Par exemple, hein, je sais pas, peut-être
et
que
pourtant.
Le rond. Non, mais peut-être que pourtant elle est ronde.
Elle
est tout. Non, mais je veux dire, peut-être que le rond n'est qu'une vue de l'esprit. Peut-être que la forme ronde n'existe pas en soi, par exemple. Peut-être qu'un jour, les scientifiques nous diront que
c'est
rond n'existe
notre
pas.
Œil qui perçoit.
Voilà, notre œil perçoit le rond tel qu'il est, alors qu'en fait, notre œil ne peut pas percevoir la véritable
un
forme.
Un peu comme les ultraviolets, les ultrasons.
Voilà, il peut se passer plein de choses. Il peut se passer plein de choses dans l'histoire de la science pour nous dire qu'un jour, la Terre ne sera plus ronde, qu'elle sera d'une autre forme, et on rigolera de nous dans 500 ans en disant, ils pensaient que la Terre était ronde. En fait, elle est, je ne sais quoi, je sais rien. Elle est
un mot
un
qui existe peut-être même
voilà,
pas.
Voilà, sur un plan. 5 dimensions qu'on n'a pas encore imaginé, bon, on s'en fout en fait, c'est même pas la question, mais du coup l'idée là c'est pas dire la Terre est ronde.
Ce qui serait drôle c'est qu'elle soit plate surtout.
mais là l'idée c'est même pas dire la Terre est ronde parce que des scientifiques nous ont dit, non, la Terre est ronde parce que ma subjectivité le dit. Et sa subjectivité c'est quoi? C'est pas de dire je pense qu'elle est ronde, c'est-à-dire je crois aux scientifiques, c'est elle est ronde parce que quand on a fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Et là, en vrai, je trouve que c'est cool.
Moi, quand je l'ai réécouté tout à l'heure et tout dans le métro, je suis
parce
c'est
qu'on raccroche
sympa.
Une vérité scientifique qui n'est pas une vérité éternelle grâce à une vérité subjective qui, elle, l'est à travers la poésie, en fait. Et là, on la comprend tous, cette poésie, c'est-à-dire que, bah, effectivement, je fais le tour du monde, Alors ça concerne pas tout le monde, mais en tout cas ça le concerne lui. Il fait le tour du monde, bon juste pour l'expliciter de manière très littérale, il fait le tour du monde et il veut rentrer chez lui. Bon, ce qui est vraiment quelque chose qui ne concerne que lui, parce que moi vraiment, en Normandie je veux vraiment jamais y refoutre les pieds.
Mais
je déteste la Normandie, je la raye de la carte. Niquez-vous, niquez-vous, je déteste cet endroit et je pense que dans 40 ans ce sera toujours pareil.
Tu veux qu'on y aille là, merde.
J'ai prévu de payer, non, je n'y retourne plus, niquez-vous. Mais en tout cas lui c'est
ça
sa subjectivité.
Un peu parce que...
Et je trouve ça beau en fait de prendre quelque chose qui est considéré comme une vérité scientifique.
Oui.
Et de le détourner pour en faire une vérité ultra subjective. Ça, franchement, ça, je trouve que c'est ultra bien foutu. Je sais pas s'il a pensé à tout ça, mais en tout cas, on peut le dire.
On a le droit de le penser. Ouais, t'as le droit de le penser à sa place,
ouais.
En tout cas.
Ouais, ouais.
Et bah, trop bien. Ça va être le moment de quoi ? De répondre à la question.
Je croyais que t'allais dire autre chose sur cette chanson, mais on a rien d'autre à dire.
Bah non, bah, je suis non, d'accord c'est... avec toi, non, c'est ouais. Trop bien, tu vois.
Ok, c'est trop bien. Non, c'est le moment pour écouter l'avis.
Non, et nous on répond pas à la
personne.
Question d'abord. Ah non, non, c'est après.
On va d'abord écouter l'avis d'une autre personne. Cette semaine, c'est moi qui ai interrogé une autre personne. Cette personne a des choses beaucoup plus intéressantes que nous à dire.
Oui.
En deux minutes, vous allez voir qu'elle tue le
c'est
game.
C'est qui ?
Cette personne, c'est Étienne.
Ah.
On va l'écouter.
Ah bah, je vois.
On
okay.
Écoute Étienne.
Alors, comment tu t'appelles ?
Étienne.
Quel âge tu as ?
J'ai 32 ans.
Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Je cuisine et je travaille dans un restaurant au service.
Étienne, toute vérité est-elle définitive ?
D'emblée, je serais tenté de dire non, mais je pense que c'est un peu plus compliqué. Pour faire court, je pense que toute vérité, elle doit être dépassée pour qu'on continue de vivre et d'avancer. Mais qu'en même temps, pour vivre et avancer, on a besoin de certaines vérités, on a besoin de certaines certitudes, quoi. Donc, je dirais... Toute vérité définitive, c'est bien pour vivre, mais jusqu'à preuve du contraire, quoi.
Tu penses à quelle vérité qui t'aide à vivre, toi ?
La gravité, tout ce qui est fait, vérifié, jusqu'à preuve du contraire. Notre passé aussi, d'une certaine manière, on ne peut pas revenir en arrière. Et quelque part, c'est bien de garder un rapport souple, en fait, à ça, de se dire « mon passé, il ne me définit pas ». Mon identité, elle me définit pas, mais en même temps, bah, c'est des structures qui ont un certain impact et contre lequel je peux pas faire grand chose. Donc il y a le goût de la vérité, on va dire. Mais en même temps, moi, pour être heureux, j'ai besoin de toujours chercher à m'y confronter, à les dépasser, quoi.
Il y a des vérités auxquelles tu croyais que t'as détruites et qui t'ont marqué ?
Ah ouais, carrément. Bah, moi, j'ai été très 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 croyant. Dans les spiritualités au sens large, donc New Age, mais aussi le christianisme. Et c'est vrai que dépasser ça, ça m'a aidé à avoir plus confiance en moi d'une certaine manière aussi, en me disant bah, j'ai pas besoin de tant de fatras pour vivre, quoi.
Merci.
Bah, de rien, merci à toi.
Alors, Lucille, oui. Toute vérité est-elle définitive ?
Non.
Et nous serons d'accord pour cette voix, car
et
je dirais non aussi.
Tu sais, j'ai pensé à un truc. En début de podcast et tout, tu m'as cassé les couilles avec l'étymologie. Mais du coup, on avait vu que l'étymologie en indo-européen, ça venait du mot ami. Et je me disais, c'est quand même un truc qui est quand même intéressant, c'est que philosophie, le philosophe, c'est l'ami de la sagesse. C'est pas l'ami de la vérité, tu vois. Et je me dis, est-ce que le philosophe, est-ce que tu as le début de la philosophie, c'est pas déjà comprendre qu'aucune vérité n'est définitive. Enfin, le mec est pas ami avec la vérité, tu vois, il est ami avec la sagesse, tu vois.
C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Lucille, il est venu temps de proposer au vote le prochain sujet de notre podcast. Je n'ai pas regardé ce qu'il en était. Toi, tu as devant les yeux deux sujets. Est-ce que tu peux nous dire de quelle année ils sont, quelle filière ? Tu peux nous dire, s'il te plaît.
2017, mais dis-moi d'abord, tu veux L, E, S ou S ? Moi non plus, je ne les connais pas.
On n'a pas fait S encore, scientifique. On n'a pas fait scientifique.
Putain, ta grosse maman. Alors, attends, E, S...
S. Scientifique.
Oh putain, c'est trop bien.
Ok.
Sujet 1. Défendre ses droits, est-ce défendre ses intérêts ?
Ah, défendre ses droits. Est-ce que je peux préciser aux auditeurs que j'ai fait un doctorat
oui, c'est vrai.
Auprès d'une faculté de droit. Est-ce que je précise quand même, du coup, là, j'entends des mots qui me titillent.
Qui te parle.
Défendre ses droits.
Défendre ses droits, est-ce défendre ses intérêts ?
Ok.
Je pensais que t'allais vraiment... dire, ah, je le dis aux auditeurs, donc je suis à la banque et j'ai un taux d'intérêt, tu vois. Et non, je dis, oui, va.
Non, ma femme est prof de droit.
Tout à fait.
Ça, c'est quand même, ça pourrait peut-être m'aider, tu vois, comme pour réfléchir.
Ah bah, je pense
ça.
Qu'il va falloir que tu lui poses la question.
Défendre
à moins
ses
que tu,
droits.
À moins que ce soit le sujet 2 qui soit choisi.
Oui, et j'espère, parce que c'est un sujet qui m'inspire pas du tout.
Zéro.
Mais bon, le peuple décidera.
Oh putain, j'espère qu'elle va prendre ce sujet.
Défendre ses droits et défendre
ses droits.
Trop
chiant, on va jamais y arriver.
Ok. Ouais.
2. Peut-on se libérer ? Attention, mais regarde la formulation pétée, éclatée au sol.
Peut-on se libérer ?
Peut-on se libérer de sa culture ?
Peut-on se libérer de sa culture ?
Oh ah. Ben moi, je suis allée en vacances en Thaïlande, j'ai mangé des poissons crus, je me suis libérée de ma culture.
Quand on parle Thaïlande, j'ai l'impression
qu'on parle... avec l'accent belge. Et je me libère
accent.
De ma culture.
C'est même pas ton accent qui me pose question, c'est que quand on parle Thaïlande, en général, on parle d'un autre sujet que le poisson.
Oh ben je suis allée à Bangkok, j'ai vu des meufs qui fumaient avec leur touche. Je me suis libérée de ma culture. Depuis que je suis revenue au Pause Club, les gens ils sont surpris. Hein. Bon. Ah ben j'y vois, moi je me suis libérée de ma culture. Voilà. Maintenant je fume.
Bon allez, faites-nous les deux sujets. Le premier, défendre ses droits, est-ce défendre ses intérêts? Et le deuxième,
peut-on se libérer de sa culture?
Donc on vous fait confiance, votez sereinement. Voter en pleine conscience, nous traiterons ce sujet d'ici 2 semaines. On se retrouve. Lucille,
oui.
Merci
pour ce podcast. À toi.
On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau sujet
merci
de vidéo.
À toi.
Allez, à bientôt tout le monde.
Oh là là.
But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors are beautiful like a true colors. true.